spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la businesswoman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Coucou, j'espère que tu vas bien. J'ai répété 550 000 fois cette intro. C'est celle-là que je garderai, même si je fais des fautes de français, je prends celle-là. J'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine qui commence, un petit peu automnale dans les températures et le temps. Je m'attendais à un petit peu mieux, parce que la semaine dernière, nous avons eu un grand soleil. Je pense que tout le monde est un peu fatigué, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, c'est un petit peu grosse fatigue de fin d'hiver. Et pourtant, nous vivons en France, donc j'imagine même pas les Suédois. Cette semaine, je vous retrouve pour un nouvel épisode avec une orthophoniste spécialisée dans le bilinguisme, Audrenne, originaire de Vannes à l'origine. Elle est expatriée d'abord à New York et ensuite au Canada. Elle a une petite fille et elle est venue répondre à toutes mes questions concernant le bilinguisme et les enfants. Vous allez découvrir qu'il n'y a pas une seule façon de faire, que chaque famille a son mode de fonctionnement et donc ses techniques qui lui sont propres. On va parler de tout ça dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à me laisser des commentaires sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute. Je vous en serai très reconnaissante. Ça commence, je fais plein d'erreurs, c'est génial. Allez, je vous souhaite une bonne écoute, à bientôt, salut. Bonjour Audrenne, comment vas-tu aujourd'hui ?
Ça va et toi ?
Ben, ça va bien. Aujourd'hui, nous allons parler bilinguisme chez les enfants. Est-ce que tu veux bien faire une petite présentation de toi et ta famille, s'il te plaît ?
Ouais, donc moi je suis française, je suis orthophoniste donc. J'ai une petite fille de 2 ans et nous on habite à Montréal. Mais avant, on était à New York, donc c'est surtout là que j'ai eu l'expérience avec les enfants bilingues, donc en tant qu'orthophoniste, avec les enfants expatriés.
Est-ce que la vie à New York te plaisait ?
Oui, il y a des bons côtés, puis il y a des mauvais côtés, hein, dans toutes les villes, dans tous les pays, mais globalement, oui, ça me manque. Ouais.
Ouais. Du coup, tu avais une communauté française très... très importante là-bas ?
Oui, à New York, il y a quand même une belle communauté française. Moi, je travaillais beaucoup, en fait, avec les enfants du lycée français. Donc, ils étaient vraiment... le français était vraiment dominant pour eux. Ouais, il y avait quand même... Il y avait des Français, puis il y avait aussi des Belges, des Suisses. J'ai même eu un enfant qui venait du Sénégal. Enfin, voilà.
Oui, donc il y avait pas mal d'ethnicité.
Voilà.
Est-ce que tu veux bien nous dire ce que c'est être orthophoniste?
Oui, alors très souvent, on va penser que c'est la personne qui aide les enfants qui ne parlent pas bien, qui bégaye, qui zozote, ou les enfants dyslexiques. Mais en fait, ça couvre beaucoup plus de choses puisqu'on va s'occuper des enfants quand ils sont tout bébés jusqu'aux personnes âgées. Donc avec les bébés, on va pouvoir faire les troubles de l'oralité. Après, quand les enfants grandissent, bah oui, il y a le langage, mais il y a aussi la déglutition, les logico-mathématiques, la voix, puis après quand les personnes vieillissent, il y a aussi suite aux AVC ou avec des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, enfin voilà.
C'est très dense.
Ouais, c'est très vaste. Après, on n'est pas tous, moi je ne serais pas capable de prendre tout le monde en charge, on n'est pas formé à tout. Des fois, il faut savoir dire, ben tiens, je préférerais que tu ailles voir ma collègue qui maîtrise mieux ce sujet, mais... Et ça couvre beaucoup de choses, oui.
D'accord. Ouais, donc ça, tu vois, je ne le savais pas. J'apprends déjà quelque chose. Du coup, nous allons parler un petit peu des enfants bilingues et du développement du langage chez les enfants. Alors, moi, je vais te poser mes questions. Déjà, à partir de quel âge un enfant commence à différencier les langues ?
Ben en fait, déjà dans le ventre, déjà dans le ventre de la maman, le bébé, quand il naît, il est capable, même un enfant monolingue, en fait, va être capable de repérer sa langue maternelle si on lui présente une autre langue qui est sur un rythme différent. Donc, dans les langues du monde, il y a trois groupes rythmiques. Donc, si on lui donne une langue d'un autre groupe, et ben, il va être capable de différencier. Et à 4 mois et demi, il y a des études qui montrent que les enfants bilingues, ils arrivent à différencier deux langues du même groupe rythmique. Donc là, les études qui avaient été faites, c'était avec le catalan et l'espagnol.
D'accord.
4 mois et demi, c'est très tôt, ouais. Donc ils vont s'appuyer sur finalement le rythme, les intonations, les sons de la langue qui ne sont pas forcément les mêmes. Aussi, des sons qu'on met les uns à la suite des autres sont différents des langues, d'une langue à une autre. Puis, ils regardent le visage des personnes. Enfin, voilà, ils regardent beaucoup de choses. Il n'y a pas du tout de confusion. L'enfant, il sait très tôt que ce n'est pas la même langue.
Et du coup, ça me fait juste rebondir sur un truc. Tu dis qu'ils regardent le visage des personnes. Mais du coup, avec le masque en ce moment, avec la situation actuelle, est-ce que ça a un gros impact sur le développement du langage des enfants ?
On n'est pas tous d'accord sur la question. Il y en a qui crient haut et fort que oui, ça a un gros impact et que c'est très négatif. D'autres sont beaucoup plus nuancés. Moi, je fais partie des gens qui sont plus nuancés. Je pars du principe que déjà, les enfants n'ont pas le masque toute la journée. C'est vraiment les bébés qui regardent plus le visage. Voilà, après, déjà, un enfant monolingue, on montre que, je sais plus c'est quel âge, mais je crois que c'est à un an, il s'est déjà un peu désintéressé de la bouche, tu vois, un enfant monolingue.
D'accord.
Donc voilà. Mais, et puis voilà, ils voient leurs parents, hein, quand on parle avec nos enfants, on n'a pas le masque. Ouais. Et j'avais eu un argument aussi d'une autre orthophoniste qui nuançait beaucoup, qui disait, les enfants aveugles arrivent à parler. Donc, voilà. Ouais. Bon, je pense que c'est pas idéal. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est pas idéal, mais c'est pas non plus la catastrophe. Voilà. C'est comme ça que d'accord. Je le vois. Mais on n'est pas tous d'accord. Hein. Il y en a qui disent que ça a de grosses conséquences. Bon.
Ok. Voilà. Non, mais c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue.
Alors, on verra après.
Ouais. Il faut attendre un petit peu. Donc, du coup, un enfant commence à différencier les langues à partir de 4 mois, 4 mois et demi. Donc, c'est quand même relativement tôt. Jusqu'à combien de langues un enfant peut différencier ? Est-ce qu'il y a un maximum ?
Non, parce que ça, okay. C'est une histoire de cerveau. Mais après, quand on dit qu'il différencie, il n'est pas capable de dire « tiens, ça c'est de l'anglais, ça c'est de l'espagnol oui. ». C'est juste de dire bah, « tiens, ça c'est pas ma langue ou celle-là, je ne l'ai jamais entendue ». Voilà, après, okay. C'est pas, il ne va pas savoir… Et voilà, il ne sait pas dire « ça c'est du chinois, ça c'est du japonais ». Non, ce n'est pas cette capacité-là dont on parle.
D'accord. Et du coup, on va parler langue minoritaire et langue majoritaire. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors en fait, la langue minoritaire, c'est la langue qui n'est pas utilisée par la communauté.
D'accord.
Et puis, la langue majoritaire, c'est la langue qui est utilisée dans la communauté. Donc en France, la langue majoritaire, c'est le français. Mais on peut avoir plusieurs langues majoritaires dans la communauté. Moi, je suis à Montréal, c'est le cas ici. L'anglais et le français sont toutes les deux des langues majoritaires puisqu'elles sont utilisées toutes les deux au quotidien.
D'accord. Donc, les enfants, ok. Et du coup, la langue, est-ce que chez les enfants qui ont deux langues, il y a une langue qui sera dominante ou est-ce qu'ils peuvent être totalement bilingues dans les deux langues, par exemple ?
Ben, il y en a pour qui la dominance va être très claire. On va vraiment avoir une langue qui domine. C'est quand même assez rare qu'il n'y en ait pas une qui domine. Voilà, en général, il y a une langue qui domine quand même. Mais elle peut changer, déjà. Okay. Très souvent, si on est dans une famille... moi, j'ai vu des familles, par exemple, francophones à New York. L'enfant, quand il est tout petit, c'est le français parce qu'il a surtout appris le langage avec ses parents et voilà. Et puis quand commence l'école et surtout aussi les interactions avec les copains et tout ça, et ben là c'est l'anglais du coup qui devient dominant. Mais s'il retourne en France, hop, on va pouvoir repasser au français qui va redevenir dominant. Enfin, voilà, ça peut changer tout le temps. Et même sans changer totalement, c'est que on voit qu'il y a des petits mouvements sur ça fait en fait comme un continuum, puis on bouge un petit peu. Donc par exemple, un enfant qui habite à l'étranger puis qui retourne en France pendant les vacances, Ben okay. tiens, le français va revenir un petit peu. Alors, il va pas dominer l'anglais, mais peut-être il va se redécaler sur le continuum, en fait, pour prendre un petit peu plus de place.
C'est hyper intéressant.
Toute notre vie, en fait, ça change.
Ouais. Du coup, il y a pas une, c'est jamais figé au final.
Non, 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 il n'y a rien de figé.
Ouais. Ça doit vraiment leur demander. Est-ce que ça leur demande beaucoup d'efforts de jongler entre les langues ou est-ce que
Non,
c'est vraiment.
ça demande pas un effort, mais c'est sûr que ça demande en fait de toujours inhiber une langue. Mais après, on le fait on le fait sans vraiment s'en apercevoir. C'est-à-dire que s'il parle à une personne qui ne parle que français, eh ben, il va inhiber l'anglais. Bon, je parle anglais-français parce que c'est vraiment le bilinguisme que je connais le mieux, mais ça marche pour toutes les langues. Donc il faut inhiber, il faut se dire, bah, tiens, là, l'anglais, je le mets de côté, et puis moi, je parle que en français parce que mon interlocuteur comprend pas l'anglais. Donc il peut y avoir des moments où du coup, on perd un mot, enfin voilà, mais voilà. Et ce fait-là, du fait d'avoir cette habitude-là, c'est plutôt l'inverse, en fait, c'est que plutôt que ce soit un effort, ça va lui apporter des qualités, des bénéfices au niveau cognitif, au niveau du cerveau. Parce que du coup, comme il est habitué à inhiber, si par exemple on lui demande de faire une tâche, puis on va lui dire de changer la consigne en cours de route, ben, ça va être plus facile du coup pour
Une
lui, parce que
adaptabilité.
ouais, il a l'habitude, exactement. C'est de la
Ah, c'est.
flexibilité mentale qu'on appelle ça.
D'accord.
Ouais.
Je ne savais pas ça non plus. J'apprends plein de choses. Comment apprendre la langue maternelle à son enfant? Par exemple, je prends l'exemple de Oscar qui est suédois et nous vivons en France. Est-ce que, donc, du coup, c'est une langue minoritaire?
Le suédois.
Voilà. Est-ce que la stratégie, c'est une bonne stratégie de faire un parent égale une langue, ou est-ce qu'il existe d'autres choses?
Bah, c'est une bonne stratégie, mais ce n'est pas l'unique stratégie. Donc oui, il existe d'autres choses. Et puis, en fait, chaque famille va devoir trouver la stratégie qui lui convient et puis une stratégie qui va être réaliste pour la famille. Donc, il y a plusieurs possibilités. On va pouvoir faire un parent une langue. On pourrait aussi faire que les deux parents parlent la langue minoritaire, même si par exemple toi c'est pas ta langue maternelle, mais tu pourrais dire, bah tiens, moi je me sens assez à l'aise que pour parler, pour qu'il y ait vraiment beaucoup de suédois à la maison. Mais après, il peut y avoir un parent qui va décider, bah tiens, ça va être notre langue uniquement quand on est tous ensemble, quand papa est là aussi. Ou enfin voilà, c'est à chaque famille de trouver comment ils vont réussir à trouver leur équilibre et puis que ça soit naturel pour eux en fait. Faut vraiment pas. Parce que parfois j'ai des parents qui m'écrivent et puis qui me disent, ben j'aimerais bien que mon mari fasse comme ça, mais il n'y arrive pas. Ben ça, là,
C'est que c'est pas la bonne solution.
non, parce qu'en plus on risque dans ce cas-là de couper la communication avec son enfant si c'est pas naturel. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle avec notre enfant. On veut lui donner un modèle très souvent. Et là, si jamais on est plus dans le naturel, on va couper la communication avec notre enfant. Et c'est pas ce qu'on recherche.
C'est intéressant.
Donc, mais il y a des parents aussi qui vont mélanger les deux langues. Enfin, voilà. Ça, on retrouve beaucoup plus dans les communautés, par exemple, les communautés hispanophones aux États-Unis, où comme il y a des communautés de bilingues. Eh ben, c'est la façon de parler. Puis dans les pays arabophones aussi, beaucoup, il y a beaucoup de parents qui me disent que ben, c'est la façon de parler de la communauté, même de mélanger les deux langues. Donc il n'y a pas une seule façon. C'est vraiment en fonction de la famille. Mais on n'est pas obligé d'être un parent une langue stricte comme on l'entend souvent. Ça, c'est pas obligatoire.
C'est bien, j'apprends des trucs. Mais du coup, est-ce que ça va pas. Enfin, l'enfant va s'adapter très facilement. Si moi, par exemple, demain, je leur parle suédois, il n'y aura pas de souci, ils comprendront.
Ben, ils vont comprendre. Après, je vais pas te dire que ça va se passer.
Ils
Ils vont
vont
peut-être se demander un petit peu pourquoi maman commence à nous parler dans cette langue. Enfin, en fonction de leur âge, peut-être ils pourraient aussi dire qu'ils sont pas d'accord. Mais c'est, on peut le faire progressivement. On peut en parler avec eux selon leur âge aussi. Mais c'est faisable. Bien sûr que c'est faisable. Ouais.
Donc du coup, est-ce qu'une seule personne peut parler plusieurs langues à son enfant? Tu viens d'y répondre. Donc c'est oui.
Oui, en fait, le seul risque, ce serait que la langue minoritaire, elle soit rejetée si, par exemple, ben, ton conjoint, s'il se met à parler un coup français, un coup suédois, et qu'il n'y a personne autour qui supporte la langue minoritaire, ben, du coup, les enfants, ils risquent de se dire, bah, tiens, finalement, il n'y a pas vraiment de besoin pour moi de la parler, et puis, enfin, voilà, c'est... Donc c'est le seul risque, mais encore une fois, on va faire en fonction de ben, est-ce que j'ai du support autour de moi, est-ce que j'ai bien valorisé ma langue. Enfin voilà, ça peut fonctionner, un parent qui va parler les deux langues, mais voilà, il y a un risque. Et après, qu'est-ce que je fais pour éviter le risque? Soit je m'en tiens à ma langue, soit je la renforce par d'autres moyens.
Voilà. Oui, mais c'est intéressant. Au final, c'est la langue minoritaire qu'il faut vraiment essayer de préserver au plus.
Oui, bah après, ça dépend, parce que je suis par exemple un compte sur Instagram qui parle beaucoup en fait de l'espagnol, mais l'espagnol aux États-Unis. Et puis, même si c'est une langue minoritaire, elle est très représentée dans la communauté quand même. Les enfants, ils ont l'habitude de les entendre et tout ça. Donc, le suédois en France, je pense que c'est beaucoup moins représenté. Donc, tu vois, je pense que la réponse, elle sera différente en fonction de son contexte, de chaque son famille. Environnement. Exactement.
C'est vraiment hyper intéressant. Est-ce que les enfants qui évoluent avec plusieurs langues autour d'eux vont-ils parler plus tard?
Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment le mythe le plus répandu.
Ouais.
Mais les enfants, ils vont babiller, ils vont dire leurs premiers mots, leurs premières phrases en même temps que les monolingues, aux mêmes âges.
Ouais.
Mais il y a quand même, il y a des petites différences. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on compte les mots dans les deux langues.
D'accord.
Voilà, on ne va pas dire, tiens, s'il a trois mots en français et qu'il en a huit en suédois, voilà, il en a 11, il n'en a pas trois ou huit. Donc, il faut qu'on compte tout. Et puis, il y a une langue qui peut être plus tardive que l'autre aussi. Ça veut dire que peut-être il va commencer à faire des phrases dans une langue, puis dans l'autre, il a un niveau un petit peu plus faible. Donc, on va regarder la langue où il est le meilleur, en fait. Hein. C'est ça qui est notre indice. Voilà. Mais en fait, pourquoi les gens pensent que les enfants sont bilingues sont plus tardifs? Déjà, il y a cette idée que c'est un effort. Et mais c'est pas le cas. Et puis, en fait, dès qu'un enfant a un petit retard, un petit peu plus tardif, en réalité, c'est assez fréquent. Mais dès que ça arrive à un enfant bilingue, c'est parce qu'il a les deux langues. C'est pour ça. Et c'est comme si on devait trouver une raison. Si jamais il marche un petit peu plus tard, on va pas dire que c'est parce qu'il est bilingue. c'est juste qu'il marche un peu plus tard, en fait, c'est tout.
Chacun son rythme.
Voilà. Donc, il y a la même proportion d'enfants avec des troubles du langage. Il y a la même proportion parmi les monolingues et les bilingues. Ils sont pas plus à risque de troubles du langage. Du tout. Et puis il y a aussi le fait que des fois les gens qui sont face à un enfant bilingue, s'ils comprennent pas une des langues, il y a des fois où ils vont pas les comprendre. Même les parents, des fois, ils se disent tiens, je sais pas quel mot il a utilisé, est-ce que c'était un mot dans l'autre langue ou dans cette langue. Donc voilà, c'est plus ça, mais l'enfant il est pas ils sont quand même pas à l'abri, ils peuvent avoir un retard de langage, ils peuvent avoir un trouble.
Mais du coup, c'est pas dû aux langues.
Non, c'est pas. Et donc, comme c'est pas dû au bilinguisme, retirer le bilinguisme, parce que ça, c'est le conseil qui en découle, c'est c'est un petit peu trop pour lui, on va lui en enlever une. Non, ça va pas résoudre les problèmes, parce que le problème, c'est le langage, c'est pas les langues. Donc, c'est pas en retirant une langue qu'on va résoudre le problème du langage.
À partir de quel âge il faut. Dans l'idéal, intégrer la deuxième langue, du coup. Parce que des fois, il y en a, ils vont se dire, faut attendre un petit peu.
Il n'y a pas d'idéal, en fait. Encore une fois, ça va être par rapport au contexte de chaque famille. Mais si jamais, dans ton contexte à toi, où il y a les deux parents qui ont chacun une langue, dès la naissance, il n'y a pas de raison d'attendre. Mais ça peut être, si jamais, je ne sais pas, un parent n'a pas trouvé naturel de lui parler dans sa langue maternelle à la naissance, puis qu'après il regrette, on peut toujours l'incorporer après, c'est pas trop tard. Donc, ça va dépendre du contexte
de chacun.
Ouais.
Ok. Et du coup, parce que le parler, c'est une chose, mais après, il y a l'écrit, et il y a dans certaines langues aussi, deux alphabets différents. Est-ce qu'il y a certaines stratégies à adopter dans ces cas-là, ou comment on peut le faire?
En fait, on me dit, il n'y a pas vraiment de stratégie non plus là, chacun va faire comme il le sent, mais en tout cas, on peut faire dans sa langue maternelle, même si ce n'est pas la langue dans laquelle l'enfant va être scolarisé après. Si jamais moi je veux apprendre l'alphabet, les lettres et les sons à ma fille en français alors qu'elle va être scolarisée en anglais ou même en chinois, c'est tout à fait possible de le faire, parce qu'en fait l'enfant, il ne va pas apprendre à lire deux fois. Il va transférer ses connaissances. Donc, du coup, si là, on va prendre l'exemple de français, puis après, il va apprendre l'anglais. Donc là, on a le même alphabet. Mais il y a quand même des petites différences. Donc, il va avoir un E, il va se dire I. Ah ben non, enfin voilà, c'est pas un I, c'est un E. Donc, voilà. Et puis, alors, on se dit, ah, ça y est, je l'ai rendu tout confus, c'est pas vrai. Eh ben non, en fait, ce que ça nous montre, c'est pas que l'enfant, il est confus, c'est que l'enfant, il a fait des transferts. C'est-à-dire que ça a fonctionné, d'accord, en fait. Parce qu'avec d'autres, par exemple, avec le F en anglais, en français, ouais, ça fonctionne. Mais il y a certaines lettres avec lesquelles bah, ça ne fonctionne pas. Et donc, quand ils se trompent, en fait, ce qu'ils nous montrent, c'est pas qu'ils sont confus, c'est qu'ils ont utilisé ce qu'ils avaient compris dans l'autre langue, dans celle-ci. Puis, en fait, ils vont juste avoir à apprendre ben, les petites différences d'une langue à l'autre. Donc, c'est pas, ils recommencent pas à zéro tout ce qu'ils ont appris. Continue. Après, si on prend un alphabet qui est complètement différent, donc si on va aller apprendre après en chinois ou en japonais, il y a moins de transferts, forcément.
Okay.
Mais ouais, il y en a quand même, c'est-à-dire que déjà, l'enfant, il va quand même avoir compris que, bah, tiens, un caractère, ça correspond à un son. Donc, voilà, il y a quand même des choses qu'il aura appris dans sa langue maternelle qu'il va pouvoir transférer dans la langue après. Mais ensuite, pour savoir comment s'y prendre, ou, enfin, voilà, c'est à chacun de voir en fonction de ses objectifs. Est-ce que j'ai envie que mon enfant apprenne à lire dans ma langue maternelle? Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que, voilà, est-ce que je préfère qu'il apprenne à l'école et puis dans un an, on commencera avec ma langue maternelle? C'est possible, chacun fait comme il souhaite, mais on ne va pas le rendre confus, c'est surtout ça qu'il faut garder. Après, c'est aux parents de s'écouter s'il a l'impression que c'est trop pour son enfant ou que, voilà, qu'il y a des activités à côté, il y a du tennis, du foot, des machins. Enfin, tu vois, c'est chaque famille de décider à quel point c'est important pour eux. Voilà.
Et par exemple, sur un enfant qui va mixer les deux langues et faire des phrases avec deux langues, est-ce qu'il faut lui répéter dans la langue dans laquelle on parle? Comment réagir face à cela?
Je pense que tu auras compris avec mes réponses qu'il n'y a jamais une seule réponse. Mais bah déjà, en fait, comme on disait, là, il y a les communautés où c'est normal donc, de le faire. Donc, pour eux, c'est correct. Mais j'ai déjà eu des gens de ces communautés-là qui me disaient « Mais moi, je ne veux pas que mes enfants le fassent. » Ben, alors, dans ce cas-là, on peut répéter. Donc, ça va dépendre aussi ça de notre exigence à nous. À savoir aussi qu'un enfant qui est entouré de parents qui vont beaucoup, donc on appelle ça code mixé, donc qui mélange les langues, bah, l'enfant il va avoir tendance à le faire davantage aussi. Voilà, mais c'est pas une mauvaise chose. Après, c'est est-ce que toi, quel est ton objectif? Est-ce que toi, ton objectif, c'est que ton enfant il mélange pas et qu'il soit, voilà, est-ce que t'es puriste et que tu veux qu'il parle toujours la même langue? Mais dans ce cas-là, oui, on va répéter dans la langue cible. Donc si je parlais français, bah, je lui répète, je corrige pas, hein. Attention, ne jamais corriger un enfant parce que, encore une fois, on va casser la communication. Il faut que ça reste naturel. D'accord. On ne va pas le corriger. Mais on peut lui redire la phrase. Bah, tiens, tu m'as dit, je veux un cookie, je veux un gâteau. Voilà.
Okay.
On redonne juste, ah, tu veux un gâteau même. On ne va pas dire, je veux un gâteau. Tu veux un gâteau. Voilà. On lui redonne le modèle comme on l'attendait. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que ça va dépendre de nos exigences envers la langue, envers comment on veut que nos enfants la parlent.
Propre à chacun.
Oui,
quoi.
C'est ça.
Et quels sont les bénéfices d'apprendre plusieurs langues aux enfants?
Ben, il y en a beaucoup, là, déjà. Le bénéfice
on en a dit pas mal.
Pour parler avec la famille, c'est souvent ça aussi, pour pouvoir parler avec les grands-parents, qui est à la fois un bénéfice et à la fois quelque chose qui va nous aider, parce qu'on crée le besoin. Donc c'est transmettre sa culture, l'avantage évidemment, hein, de parler plusieurs langues quand on va postuler. Et puis on en a parlé tout à l'heure, les bénéfices cognitifs, là je t'expliquais qu'il y avait une flexibilité mentale qui se faisait, donc y a, voilà, y a des petites choses comme ça au niveau cognitif qui peuvent avoir aussi, par exemple les gens qui jouent d'un instrument de musique aussi, ils peuvent avoir parfois certains bénéfices cognitifs, le fait de jouer d'un instrument de musique. Alors, j'avais été à une conférence, on nous avait dit que ça ne se cumulait pas. Quelqu'un qui joue un instrument de musique, il ne va pas cumuler les bénéfices, mais il n'y a pas que le bilinguisme qui apporte des bénéfices au niveau cognitif. Et puis, au niveau, on parlait tout à l'heure aussi des maladies comme Alzheimer.
Ouais.
Et ben, ça recule la maladie de 4 ans, enfin les symptômes de 4 ans, d'après ce qu'ils ont montré. Après, le plus longtemps on a enfin, pas le plus longtemps on a été bilingue, mais vraiment le plus longtemps on a utilisé les deux langues sur une base régulière, et le plus on a ouais. de chances de faire reculer les symptômes, effectivement.
C'est génial. Bon, à savoir pour plus tard, au cas où. Là, j'ai une question qui est un petit peu plus spécifique. J'ai envie que mon enfant apprenne l'anglais. Nous parlons français et nous vivons en France. Est-ce que tu aurais des conseils ?
Ouais. Mais alors, c'est une question très fréquente. Mais en fait, moi-même, je suis bilingue. Hein, je parle français et anglais. Et ma fille...
D'ailleurs, t'as appris comment l'anglais ?
Ben, moi, comme tout le monde là, à l'école. Et puis ensuite, moi, je suis arrivée okay. à 18 ans à New York. Hein, donc, depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 36. Donc, ça fait 18 ans que je parle...
Tous les jours.
Quasiment tous les jours. C'est rare qu'il y ait un jour où je ne parle pas anglais. Donc voilà.
C'est rentré.
Ouais. Et ma fille est monolingue. Et mes amis qui sont à New York sont toujours très surpris quand je leur dis, puisqu'ils sont au téléphone, des fois ils essayent de lui parler en anglais. Non, elle ne sait pas. Et donc voilà.
Elle est monolingue français ou anglais ? Français. Mmh. Ok. D'accord.
Ouais, puisqu'on est à Montréal et que même si l'anglais est aussi une langue majoritaire, c'est quand même le français qui domine. Quand même, quand ils vont à la garderie, là, c'est en français. Enfin, voilà.
Ah oui, donc elle est vraiment majoritaire française.
Oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup plus de français. Après, elle a quand même toujours entendu, parce que moi, j'ai des amis anglophones autour de moi, j'ai des gens ici avec qui je parle en anglais.
Et quelle langue tu parles avec ton conjoint ?
Français. Donc, tout en français. Mais lui, il est même trilingue, là. Et malgré tout, pour le moment, elle est monolingue. C'est pour ça que je ne dis pas forcément...
C'est un choix personnel ?
Mais moi, j'aurais bien aimé qu'elle ait le bilinguisme depuis le départ, mais le contexte de vie fait que ici, il n'y a pas énormément d'anglais. Il faudrait que ça me demande un effort d'aller chercher les ressources en anglais. Et puis moi, je ne pars pas du principe que c'est forcément le plus tôt le mieux, parce que moi, ce que je voulais, c'est qu'elle développe bien son langage. Et moi, c'est en français où je peux lui donner le modèle le plus fort et le plus... Parce que même si je parle couramment anglais, je n'ai pas le même vocabulaire. Je ne suis pas,
je suis pas
une bilingue parfaite, parce que les bilingues parfaits n'existent de toute façon pas, ou très peu. Et que voilà, je n'ai pas la richesse de vocabulaire que je peux offrir... que je pourrais lui offrir en français.
Tu peux lui offrir
exactement. Donc pour moi, c'est lui offrir une fondation forte en français. Puis après, on pourra voir éventuellement. Ici, ce serait facile si on voulait la mettre dans une école bilingue. Il faudrait aller au privé, parce que le public ici défend beaucoup le français. Mais
mais
on pourrait le faire moyennant financement. Ouais. Et en France, c'est pareil, moyennant financement, puisque les programmes bilingues, c'est souvent dans les...
Dans les écoles privées,
ouais. Je pense. Ouais. Non, il y a un petit peu, je crois, puisque moi, j'ai des amis qui travaillent en public, genre, c'est plutôt dans l'Est, là, avec l'allemand, par exemple.
Ah, peut-être, ouais.
Et puis, pas se dire aussi que, mais l'allemand, c'est moins intéressant que l'anglais. Mais un enfant qui va devenir bilingue, ce sera forcément plus facile pour lui d'apprendre l'anglais par la suite. L'anglais, c'est la langue qui est reconnue partout dans le monde. Elle est utile, elle est enseignée. Donc, si un enfant est bilingue, peu importe le bilinguisme qu'il va avoir, c'est toujours utile. Parce que il va pouvoir en fait avoir ce bénéfice-là aussi d'avoir la facilité d'apprendre une autre langue, en particulier l'anglais, parce que l'anglais, on a vraiment le besoin qui est créé, parce qu'on en a besoin un peu.
Bah, c'est vrai.
Pour les gens qui aiment voyager, enfin moi je voyage beaucoup avec l'anglais, tu peux aller partout quoi, enfin, presque.
Ouais.
Donc.
Non mais c'est vrai. Demain t'as pas d'anglais pour voyager, c'est vrai que t'es un petit peu embêté hein, quand même. Hein.
Ouais.
Ouais. Mais du coup, est-ce que tu recommandes de regarder des dessins animés ou des supports en anglais pour les enfants ou pas ?
Alors, on n'apprend pas avec un écran, parce qu'on apprend dans l'interaction. En fait, ils vont pouvoir apprendre des mots, mais ça va s'arrêter là. Ils ne vont pas pouvoir apprendre à communiquer avec une personne avec des écrans. Donc, je les recommande pour les enfants, par exemple, expatriés, par exemple, pour tes enfants à toi. Une fois qu'ils sont un petit peu plus grands, là, moi, je dis après 3 ans, leur mettre des dessins animés pour venir renforcer une langue minoritaire, oui. Pour apprendre une langue, non. Mais on peut le faire, mais on ne va pas apprendre la langue. Mais voilà, il n'y a pas de mal à le faire.
Et est-ce que c'est vrai qu'on dit, une fois qu'on a appris une autre langue, donc on est bilingue ou presque, Est-ce que c'est plus facile d'apprendre une troisième langue, une quatrième langue ?
Oui.
Plus facile.
Oui.
Oui.
Oui, oui.
Le mécanisme est engrangé.
Oui, apparemment, ouais, y a quand même des choses qui font que ça facilite. Ouais.
C'est intéressant. Quel support du coup, je viens de te poser un petit peu la question, mais quel support recommandes-tu pour apprendre une langue ?
Alors moi, je suis pas enseignante, donc je connais pas enseigner, je sais pas. Après, moi, tout ce que je peux faire, c'est plutôt conseiller les parents qui sont dans des situations comme la tienne, c'est-à-dire une famille bilingue où le bilinguisme est là de toute façon. Et comment venir la renforcer. Donc oui, on va pouvoir utiliser des livres, pouvoir utiliser des dessins animés, enfin voilà. Mais comment apprendre une langue alors que nous-mêmes, on ne la parle pas, ou que... Enfin, ça, je ne saurais pas dire.
Ouais, non, c'est pas
mon domaine.
Ouais. Ok. Bon, bah comme ça, on a toutes les réponses. Je pense que moi, j'ai fait globalement le tour de toutes mes questions. Est-ce que tu veux rajouter quelques conseils ou quelques idées que j'aurais pu oublier ?
Non, mais je crois que en fait, je pense que c'est quand même pas mal ressorti de notre échange, c'est que y a pas une réponse pour tout le monde, donc il faut vraiment bien réfléchir à chaque situation, voilà, l'environnement, qu'est-ce qu'il y a autour de moi comme ressources par rapport à la langue que je vise, Et puis, qu'est-ce que c'est important pour moi ? Parfois aussi de voir les projets de vie.
Quelles sont nos exigences ?
Puis par la suite, est-ce que je vais rester vivre là où je suis ou est-ce que je vais partir ? Enfin voilà, il y a plein de questions comme ça à se poser pour décider. Et puis aussi que c'est pas figé. Comme on a dit, c'est pas figé. Même si jamais on se dit bah tiens, on a pris une direction, puis finalement. Tiens, on a commencé à se dire bon, nous on va pas faire trop attention, on va un petit peu mélanger les langues et puis c'est tout. Puis on s'aperçoit que l'enfant grandit et puis finalement, ah ouais, mais là, la langue minoritaire, elle est en train de disparaître. Et ben, je peux changer ma technique. Je peux dire, ben, tiens, là, maintenant, on va être un petit peu plus strict. Ou on va être, ou dans l'inverse, se dire, ben, tiens, maintenant, en fait, lui, il est très attaché à sa langue. On peut être un peu plus cool. Enfin, voilà, on peut toujours changer en cours de route. Il n'y a rien de figé.
Ok. Ouais, donc, faut pas se dire, oh, ben, c'est trop tard, c'est fichu.
Non. C'est jamais trop tard. Enfin, c'est jamais trop tard. Après, là, quand on arrive avec des adolescents et qu'ils viennent nous dire qu'ils ne veulent pas répondre, là, je suis un peu bloquée dans les conseils que je peux donner. Mais ce que je dis aux parents dans ces cas-là, c'est ben, de toute façon, ce que vous lui avez donné, c'est positif, c'est là, ça va rester. Moi, mon conjoint, il parlait russe jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis, il a quitté la Russie et maintenant, je lui demande si même il comprend quelque chose, rien du tout. Mais si un jour, on en venait tous les deux à se mettre à prendre des cours de russe, il l'apprendrait beaucoup plus vite que moi, je pense. Donc là, en plus, quand on a des parents expatriés qui continuent à parler leur langue, moi, c'est ce que je dis dans ce cas-là, continuez à parler la langue et vous continuez de lui apporter en fait au moins la compréhension. Et le jour où l'enfant, il en a besoin, de la langue, il va faire un tour en France ou peut-être même le français aussi, il est parlé dans plein de pays là, quand on voyage,
oui, c'est vrai.
Il est quand même aussi pas mal parlé. Donc le jour où peut-être il va en avoir besoin, ben tiens, il va l'utiliser, c'est pas complètement perdu, mais avec un adolescent, ça va être plus difficile d'essayer de changer nos techniques à ce moment-là.
Oui, je vois la problématique. Bon, bah Audrey, merci beaucoup. Merci pour tous tes conseils. Je mettrai dans la description du podcast ton site internet, ton Instagram.
Oui.
Si les gens veulent te poser des questions et te suivre,
oui.
Ils sauront où aller.
D'accord, tout à fait.
Et merci pour tout cet entretien ensemble.
Merci.
À très bientôt, au revoir.
À bientôt.